Elsa Rambourg est restauratrice d'ouvrages rares, artisan-relieur. Dans le cadre de notre accord avec la Bibliothèque universitaire de l'Université de Picardie Jules Verne, l'UPJV, qui finance ce programme, elle a pris en charge la restauration de 40 ouvrages rares de Jules Verne, issus des cartonnages Hetzel appartenant au Centre international Jules Verne. Sa première livraison a pu être présentée lors de ses 10e rencontres internationales, et il nous a paru important de conclure ces rencontres précisément par une conférence présentant la problématique de l'éditeur Hetzel, éditeur par excellence, sous l'angle du métier d'art, de la manufacture, de la restitution, de la restauration, et des questions qui se posent face à l'objet livre. Question d'autant plus importante que celui-ci se virtualise aujourd'hui.
Donc moi je vais aborder le Hetzel non pas sous le jour de l'édition, mais vraiment sur un plan technique et historique dans le cadre de l'histoire de la fabrication du livre. Donc Hetzel est parmi les premiers éditeurs qui prennent de l'ampleur, hein, et qui a mis en place des principes de collection. Ce qui nous intéresse en termes de fabrication du livre, c'est qu'il vit sa carrière à une époque vraiment charnière, c'est-à-dire au début de l'industrialisation de la fabrication du livre, au début de la mécanisation de la fabrication du livre. Donc, en termes de collection, je ne vais pas revenir sur les décors de plaques, hein, sur un éléphant, deux éléphants, les déclinaisons de couleurs, le décor au bouquet de roses, etc. Ce n'est pas tout à fait le sujet, mais sur d'autres éléments plus techniques. Donc, les relieurs d'Hetzel. Hetzel a donc fait appel à trois relieurs différents, trois maisons de reliures différentes, Lanier, Le Nègre et Engel. Donc les signatures, par exemple, sur un drame en Livonie, c'est les Indes noires qu'on a là, vous voyez le cercle en bas à gauche, on le trouve très discrètement en bas, ici, Charles Lanier et fils. Ici, on trouve également en bas à gauche la signature de Engel. Donc là, c'est Engel reliure. Engel étant celui qui a été, dès le début, presque jusqu'à la fin, le relieur attitré le plus souvent. Manier faisait les volumes simples seulement, Le Nègre et Engel, plutôt les volumes doubles et triples. Et ici, en bas à droite, dans le bas de l'encre, hein, toujours très discret, à Le Nègre et fils. Sur le plat, on trouve aussi l'auteur de la plaque en général, hein, Paul Souze, souvent. Donc je vous parlais d'une époque charnière pour les techniques de fabrication du livre. Les ateliers changent énormément. On n'est plus du tout dans les ateliers où il n'y a qu'un artisan, ou deux, ou trois. On arrive dans des usines qui sont complètement dévouées et adaptées au travail en série. Donc ici, on est sur les ateliers MAM, hein, qui sont illustrés, mais chaque relieur s'organisait à peu près de la même manière. Donc on voit ici l'atelier de pliage et de laminage des feuilles et ensuite laminage des cahiers. Donc ça pouvait être des entreprises qui comptaient au minimum 200 ouvriers et jusqu'à 650 à la période la plus florissante. Ici, c'est l'atelier de couture. Donc tout au fond, dans le fond de la pièce, vous voyez des montants verticaux avec une barre horizontale. C'est l'outil qu'on appelle le couloir. Les femmes souvent étaient attitrées au pliage des cahiers et à la couture des volumes. Les hommes s'occupaient des étapes suivantes. Donc les étapes suivantes, ici, il y a l'arrondissure, l'endossure, mais je reviendrai sur ces termes par la suite, hein, c'est peut-être un peu technique, et la fabrication de l'emboîtage lui-même. Ici, la salle où justement, ce qui intéresse beaucoup les collectionneurs, il y a les balanciers, les presses à balanciers qui servent pour le décor à plaques des cartonnages. Donc ce sont ces presses avec d'énormes volants dans la partie supérieure. On est aussi dans la période où on s'occupe pas mal de ces ouvriers. Remarquez la fontaine au milieu de la salle pour le bien-être et l'humidification de la pièce. Une photo bien plus récente, mais le principe était le même. Ici, on a une salle entièrement consacrée à la couture. Donc, les femmes sont installées devant des machines à coudre mécaniques. Des machines sont aussi mises au point pour aider l'ouvrier. Donc ici, vous voyez une cisaille. Une cisaille, j'utilise encore cet outil aujourd'hui. Le mien est très moderne, hein, typique 20e siècle, mais c'est une cisaille, c'est exactement le même principe de coupe. Deux lames qui se croisent et qui peuvent couper une petite épaisseur de papier ou un carton, même un petit peu épais. Ici, une cisaille un peu particulière qui sert à biseauter les cartons. Le laminoir à papier, donc laminoir pour bien plier, comprimer les cahiers des livres. Et ici, un étau qui sert à grecquer les livres en série. Alors le grecquage, c'est ménager des encoches dans le fond de cahier du livre pour pouvoir passer le fil de couture. Donc ça, c'est une photo, ce sont mes mains hein, la plupart du temps que vous allez voir. On fait ça volume par volume et à la main en prenant des mesures très précises avec une équerre à talon pour être bien droit, etc. Donc ça ne ressemble pas à la machine que vous venez de voir. Ici, la machine à couture. Et moi, je fais les coutures à la main. Une machine qui sert à comprimer les dos après la couture. Les relieurs, quand on fait appel à un artisan, feront attention à utiliser un fil de bonne taille. On a une dizaine d'épaisseurs de fils différentes, numéroté du numéro 8 au numéro 60, et on adapte la taille du fil, l'épaisseur du fil, au nombre de cahiers, à la qualité du papier, à la technique de reliure que l'on va pratiquer. Dans ce genre d'usine, on ne s'en préoccupait pas, on avait une seule taille de fil, et on utilisait cette machine. Si notre couture avait pris trop d'épaisseur, on comprimait et on était tranquille. Ici, c'est une machine à arrondir les livres, donc à donner la forme arrondie que l'on connaît aux livres reliés. Nous, on fait les arrondissures à la main, livre par livre. Donc là, c'est pas moi, par contre. Je ne suis pas aussi poilue. La machine à endosser. Donc, endosser, c'est vraiment, c'est pour parfaire l'arrondissure. On va créer un mort dans lequel vont venir se loger les cartons. C'est aussi appelé le rouleau américain, cette machine. L'endossure, on la fait volume par volume, à la main, avec un marteau. Ici, un massicot à manivelle. Moi, j'ai un massicot à bras, qui date du 19e, d'ailleurs. Quel genre de dégradation est-ce que l'on trouve sur les volumes Hetzel, mais les cartonnages d'éditeurs en général, au 19e siècle et même au 20e? Alors tout d'abord, le premier type de dégradation se trouve dans la structure elle-même. La structure de reliure est l'emboîtage, le cartonnage, l'emboîtage. C'est-à-dire que le bloc texte est tout à fait indépendant de la couverture. À terme, ils sont unis l'un à l'autre par le réencollage de une seule, dont tous les Hetzel que j'ai rencontrés, par une seule feuille qu'on appelle la feuille de garde. Donc pour des volumes de cette taille, de ce volume, de ce poids, c'est une structure très fragile. Mais les machines n'ont jamais su faire, ou il n'y avait pas suffisamment de fonds accordés à la recherche pour la mise au point de machines, c'est une autre question, la passure en carton. Les relieurs font une passure en carton, donc ici on a une couture sur ficelle et non pas sur ruban, et les ficelles sont passées à travers les cartons. Donc de fait, on devine que c'est une structure qui est bien plus solide. Dans la qualité des matériaux de couvrure, donc le développement, la multiplication du nombre d'exemplaires ont amené les relieurs à découvrir de nouveaux matériaux qui permettent une liberté énorme, et voire infinie, au niveau du décor, la percaline ou la lustrine en matériaux de couvrure, donc avec effectivement des décors à la plaque divers, variés, colorés. Mais on a remplacé des matériaux plus nobles, tels que le cuir, tels que des vraies toiles, par un matériau qui est fragile et qui s'use vite dans le temps. La qualité du papier lui-même, ça je vais m'étendre un petit peu plus là-dessus. Concrètement, au niveau de la structure, qu'est-ce que ça donne? Alors, parfois, on a simplement, enfin simplement entre guillemets, la garde qui se détache. Vous avez sûrement rencontré ça déjà. Ça peut être tout le corps d'ouvrage qui est détaché. On voit même les rubans de couture, hein, ici. Ici, si vous regardez la tranche de gouttière, un petit peu de vocabulaire, un livre, une reliure en tout cas, on a la tête, la queue, la gouttière et le dos. Le plat recto ou premier plat, le plat verso ou second plat. Là, si vous observez la gouttière, on voit des ressauts de cahiers. Donc on devine que la couture a lâché. La couture, effectivement, donc je vous ai montré les machines. Pareil, il y a quelque chose qu'elles ne savent pas faire que les artisans relieurs savent faire, c'est le point de chaînette. C'est un nœud qui permet d'accrocher un cahier au suivant. Et les machines n'ont jamais fait ça. Donc en fait, si la couture d'un cartonnage lâche, elle lâche entièrement. La couture d'un relieur lâchera éventuellement entre deux cahiers, mais pas sur les suivants, grâce à ce nœud de chaînette. Par ailleurs, il était fait une couture à cahier sauté, c'est-à-dire que le fil passait dans deux cahiers en même temps, puis dans les deux suivants, etc. Ce qui implique une plus grande fragilité qu'une couture tout du long, chose à laquelle on s'attelle quand on fait la restauration, quand on est amené à refaire la couture, on refait une couture tout du long. Ici, je montre la fragilité de la percaline, hein, donc qui est déchirée, arrachée. Donc là, on a à la fois la couture qui a lâché et la percaline qui est très abîmée. Les coins aussi, remarquez les coins, souvent ils ont beaucoup souffert, en particulier les coins en queue du livre. Et le papier lui-même. Donc le papier, jusqu'à présent, il était fabriqué à base de pâte de chiffon. Pour plusieurs raisons, le coût, le temps de fabrication et la multiplication du nombre d'ouvrages, on a cherché à développer d'autres techniques. On a donc pensé au bois et on s'est mis à fabriquer de la pâte à bois dans un premier temps, qu'on appelle la pâte mécanique. Le bois est déchiqueté, mélangé, broyé, on le laisse macérer, etc. Ça nous donne des papiers qui sont jaunes dès le départ et qui malheureusement contiennent un élément qui est très important pour les arbres, qui est un élément de solidité constitutif, c'est-à-dire la lignine. Mais la lignine qui est restée dans la pâte à bois est l'élément qui s'acidifie le plus avec le temps. Ça nous donne des papiers très cassants, donc là on le voit encore, en particulier au niveau de la gouttière. Pour pallier la couleur jaune du papier, donc voilà un exemple de volume Edsel qui présente beaucoup de taches de foxing, donc c'est des taches de photo-oxydation et un peu d'acidité également. On a essayé de supprimer la lignine en faisant subir à la pâte à bois des traitements chimiques à base de bisulfite de sodium, de chlore, etc. On a obtenu cette couleur blanche au papier, mais on n'a pas complètement supprimé la lignine et les nouveaux produits ajoutés ont eux-mêmes mal vieilli, on l'a constaté par la suite. Ces papiers à base de pâte chimique présentent eux aussi des traces de foxing en zone, c'est-à-dire sur les parties qui sont le plus souvent exposées à la lumière et au soleil. Donc, on a essayé aussi les pâtes mécanochimiques, un mélange soit 50-50, soit une plus grande proportion de pâte chimique, etc. Mais malheureusement, ces éléments nocifs sont contenus dans le papier. C'est intrinsèquement lié à toute cette période, de 1860 à 1960. On appelle ça le siècle noir du papier. Donc on a des papiers très friables, très cassants, qui présentent des taches. Et aujourd'hui, très acides, bien évidemment. Aujourd'hui, au point des connaissances où on en est, au niveau du nettoyage, le mal est fait, les taches pourront éventuellement s'atténuer, mais ne disparaîtront pas. Et l'acidité, donc il y a des processus de désacidification de masse. Les livres sont passés dans ce qu'on appelle des autoclaves. On fait le vide et il y a un traitement chimique pour supprimer ces éléments nocifs. On sait que ça ralentit le phénomène, on n'est pas sûr que ça le stoppe. Donc ça pose une vraie question sur la conservation de tout le patrimoine littéraire, sauf pour les très belles éditions où il y avait le soin du choix du papier, parce que tout ce patrimoine est en train de s'autodétruire, purement et simplement. Ici, c'est une pâte mécanique. Donc on voit les taches de foxing qui sont même au milieu de la page. Donc maintenant, je vais aborder concrètement ce qui se passe dans l'atelier du relieur, parce que je crois que c'est un peu mystérieux. On nous confie des livres pendant des temps qui peuvent être très longs, et je pense qu'on ne soupçonne pas toutes les petites étapes que l'on réalise. Donc là, c'est une sorte de diaporama d'une bonne centaine de photos pour essayer de vous expliquer toutes les étapes de la restauration. Donc dans un premier temps, on prend des mesures, on vérifie. Évidemment, je vais démonter l'emboîtage et ensuite je remettrai le corps d'ouvrage dans l'emboîtage. Il faut absolument qu'il retourne exactement aux mêmes dimensions. Donc on fait tout un travail de prise de dimension au fur et à mesure de l'avancée de notre travail. Ici, on me voit avec un scalpel en train de détacher l'emboîtage lui-même. Très facile, hein, pour le coup, plus facile que sur une reliure, puisque je vous ai montré de quelle manière c'était fabriqué. L'emboîtage démonté. Je supprime les tranches-fils, qui sont en tissu. On les appelle même dans le jargon des tranches-fils pyjama, parce que ça ressemble aux anciens pyjamas à ligne. Donc souvent tricolore ou bicolore, oblique ou droite, etc. Donc là, c'est pour illustrer le fait qu'on prend des dimensions et des informations, le type de couture, tout au long de notre travail. Les tranches-fils sont nettoyées dans un bain d'eau, tout simplement. Vous voyez qu'on prend des notes aussi, hein, quelle est la tranche-fil de quel livre, surtout, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Ici, la couture n'avait pas besoin d'être reprise, l'emboîtage était encore très bon. Donc je me contente de supprimer tous les anciens éléments, aussi bien les papiers que les colles qui étaient placés sur les dos. J'applique un cataplasme de tylose, c'est une colle chimique dont on connaît parfaitement la composition et les réactions au fil du temps. Je supprime les éléments avec l'outil traditionnel du relieur, la pointe. Voilà le dos nettoyé. Je vous parlais de couture à cahier sauté. Si vous regardez les rubans qui sont sur le dos, on remarque que le fil de couture fait des zigzags. C'est typique d'une couture à cahier sauté. La couleur de l'eau atteste du bienfait du nettoyage de la tranche-fil. Et le dos, une fois restauré, donc j'ai replacé les tranches-fils en tête et en queue, et j'ai placé entre chaque ruban et entre chaque tranche-fil du polyester. On appelle ça du non-tissé ou de l'intissé. C'est à base de polyester et c'est chimiquement stable dans le temps. C'est réputé indéchirable aussi, donc ça a une très grande résistance mécanique. Mieux que des papiers qui eux-mêmes étaient acides. Sinon, auparavant, on collait des papiers sur les dos. J'ajoute sur les dos aussi une épaisseur de papier népalais, le papier Locta. Donc le Locta est un arbuste qui pousse dans les régions de l'Himalaya et qui a la particularité d'avoir des fibres longues, à savoir que tous les papiers mécaniques à base de pâtes de bois, même pâtes mécanochimiques, etc., ont des fibres très courtes. Les fibres longues sont plus résistantes. Donc malgré sa finesse, ce type de papier est bien plus résistant. En parlant de couture, je vous ai parlé de la couture tout du long, de la couture à cahier sauté. Au XIXe siècle, par économie et par souci de rapidité, on a même poussé le vice jusqu'à faire des coutures sur agrafes. Des agrafes qui, évidemment, se sont oxydées avec le temps et qui rongent vraiment le papier. Donc, les restaurateurs vont avoir le soin de supprimer cet élément. Ce qui est un peu dommage parce qu'il m'est arrivé souvent, sur les deux séries là, que j'ai actuellement à l'atelier, de me dire « Ah, la gouttière est belle, parfait, peut-être que la couture n'est pas à refaire, elle n'a pas cédé ». Mais quand on regarde dans le détail, on trouve les agrafes et on voit les rousseurs autour des agrafes. Donc on doit vraiment en termes d'éthique de travail et de soins, puisqu'on est en train de soigner un livre, supprimer ces agrafes. Il faut être à jour du vaccin du tétanos, d'ailleurs. Ça m'est arrivé, hein, de malencontreusement me piquer avec une agrafe. Une fois le livre entièrement démonté, il faut s'atteler à la réparation du papier, à la réparation du corps d'ouvrage. Donc ici, vous voyez de quelle manière je répare une déchirure. J'applique un papier extrêmement fin, donc 9 grammes au mètre carré, à savoir que dans les imprimantes, on met du 90 grammes. 9 grammes au mètre carré, qu'on appelle la pelure Japon, donc un papier qui lui aussi a des fibres longues. Au recto, au verso, on ponce légèrement et la déchirure est restaurée. J'en suis à plusieurs milliers de déchirures pour l'instant et je n'ai pas encore tout à fait terminé. Le papier cassant dont je vous parlais, même à la, quand on tourne une page, on peut déchirer. Ici, je vais aller avoir le détail d'un comblage de lacunes. Donc il y avait un manque sur ce feuillet. Je m'installe sur une table lumineuse. Je trouve un papier dont le grammage, l'aspect et la couleur ressemble le plus possible au papier d'origine, mais en ayant soin de choisir un papier qui a des qualités de conservation plus que correctes. Je prends exactement la taille de la forme et sa forme. Ensuite, je la recoupe. On vérifie qu'elle est ajustée. En fait, il y a une petite superposition d'un millimètre. Je prends un millimètre au-delà. C'est à cause de cette superposition que j'affine les bords de la forme. C'est ce qu'on appelle un élagage, pour qu'on sente le moins possible la différence de niveau. Et je la replace, donc là j'en colle, toujours avec cette colle chimiquement stable, et parfaitement réversible à l'eau aussi, c'est très important. Toute intervention de restauration doit être réversible. Et je replace la lacune. On appelle ça aussi faire une greffe de papier. Il y a des termes, on utilise des scalpels et on utilise quelques termes de vocabulaire chirurgicaux. Donc voilà le résultat sur plusieurs feuillets. Ici, le fond de cahier est fort abîmé. On le devine, vous voyez, sur la gauche, hein, on voit nettement que le papier est déchiré. Donc je recoupe une bande de papier japonais qui mesure 8 mm de large et qui est légèrement plus courte. Il s'agit de l'encoller. On place le cahier à cheval sur notre bande de papier, et avec un papier cristal, on va faire revenir la bande de papier japon. Donc 8 mm, hein, ça fait 4 mm de chaque côté. C'est très discret, et on a parfaitement renforcé le fond de cahier. Donc ça à faire parfois sur tout les cahiers d'un volume, sachant qu'il y a une cinquantaine de cahiers en moyenne par volume Hetzel. Ensuite, on va devoir faire perdre autant que possible l'arrondissure et l'endossure qui avaient été précédemment données au livre. Donc on martèle avec précaution les fonds des cahiers. Les cahiers qui n'ont pas reçu d'onglet de fond de cahier vont être glairés. Donc, toujours avec cette colle dont je vous ai parlé, on applique un léger filet. On procède au grecage. Donc pour ne pas abîmer, parce qu'évidemment c'est une scie qu'on utilise, c'est un peu traumatisant pour le papier, on réutilise les mêmes grecs que les grecs antérieurs. Et on procède à la couture. Donc je vous ai expliqué la couture tout du long. Sur ruban. On trouve parfois des coutures sur ficelle aussi. Là, on retourne au cartonnage. Il s'agit de détacher, de soulever les gardes pour pouvoir les renforcer, de supprimer aussi les éléments qui sont acides. Par chance, les cartons de cette époque ne sont pas acides. C'est assez miraculeux, mais on a fait des tests et en général, ils ne sont pas acides. Donc, on supprime la mousseline qui était posée sur le dos. Je vous ai dit que j'avais posé du polyester, eux, ils posaient de la mousseline. Donc, c'est à base de coton. Et le coton vieillit pas si mal, mais c'est pas l'idéal non plus. Donc on supprime cette mousseline. Voilà le résultat. On a soulevé la garde. On supprime aussi les cartes qui étaient sur le dos, qui sont acides et souvent abîmées. Celle-ci est en plutôt bon état. et on va nettoyer complètement le dos, toujours dans le but de supprimer les éléments les plus acides. Voilà. Le dos est parfaitement nettoyé cette fois. On renforce le carton côté mort en frottant, en massant bien avec de la tylose. Et on commence à placer le papier japonais. Donc ce que vous voyez en blanc en tête et en queue, c'est la bande de papier japonais qui vient renforcer la garde au niveau du mort. Donc celle-ci était en deux parties. On les rassemble. Et voilà le résultat. Donc à ce niveau-là, moi, plutôt que de remplacer les gardes, ce qui serait plus facile, plus rapide et plus facile, par souci d'authenticité et de rester avec les matériaux d'origine, je préfère un léger défaut, parce que nécessairement, on verra légèrement la bande de papier Japon dessous. Je préfère ce défaut pour conserver les matériaux d'origine. Ici, on soulève la toile au niveau du mort pour pouvoir ensuite glisser notre greffe de toile, greffe de lustrine. On prend les dimensions, la plus grande, en écartant bien, puis la plus petite, et on fait une moyenne des deux. Donc la bande de lustrine viendra se glisser exactement sur le dos et légèrement en dessous des cartons. Donc on l'encolle. Pour marquer la couleur de la colle, on a changé. C'est une colle qui, elle aussi, est parfaitement réversible à l'eau, mais qui a un séchage plus rapide que l'autre. Donc on pose la bande de lustrine. Et là, il va y avoir tout un travail de façonnage. On va masser, on va réencoller les cartons pour les refixer sur la bande de lustrine. On recoupe les excédents. Donc là, on réencolle les cartons sur la greffe. Et donc, il y a certains miracles qui se passent. Vous voyez l'état du cartonnage, vraiment très abîmé. Donc là, commence à reprendre forme de livre. Donc il y a la règle lourde qui nous aide. La carte que j'avais supprimée, je la remplace par un buvard 100% coton ou 100% PCB. PCB, c'est patchnik blanchi. Donc pareil, c'est un papier permanent dont la composition chimique ne se désagrège pas dans le temps. Et on va refermer notre cartonnage. Donc on les remplit. Les gardes qui peuvent reprendre leur position définitive. On redonne la forme arrondie au dos. On la suggère pour l'instant. Et ensuite, on va glisser le volume à l'intérieur. Ça va sécher de cette manière-là. Maintenant, la restauration des coins. Donc, on pratique des incisions sur le champ supérieur. On soulève avec là, c'est encore un scalpel que j'ai dans la main. On soulève avec une spatule. Les incisions sont pratiquées aussi sur le champ du carton, puis à l'intérieur, pour pouvoir accéder plus aisément. On effeuille le coin, qui souvent est écorné et abîmé, et on va le réencoller pour lui redonner du corps. On le façonne. Donc vous comprenez que c'est un travail de patience, de minutie, extrêmement long. Ici, on prend les dimensions de la greffe que l'on va replacer au niveau du coin. On la recoupe légèrement arrondie pour qu'elle soit plus discrète. Et on va l'encoller, la poser, la façonner. On réencolle évidemment aussi pour replacer le matériau d'origine. Et on refaçonne. Et donc tous les volumes qui sont ici, si vous voulez les regarder à nouveau tout à l'heure, parce que peut-être que vous aurez un regard différent sur le travail qui a été fait, tous les volumes quasiment ont au moins les deux coins inférieurs restaurés, voire les deux coins supérieurs également. Il y a aussi des greffes sur le champ des cartons. Là, cette fois, j'ai fait une greffe. Et on donne un petit coup pour parfaire, pour qu'on sente le moins possible la surépaisseur. On peut aussi faire des greffes au beau milieu du plat, ça arrive. Vous avez peut-être aussi vu des cartonnages dont la toile était soulevée. On arrive à la réencoller, à la replacer correctement. Donc là, c'est pour illustrer une greffe sur le champ, avant, après. Donc ensuite, il y aura le travail de reprise de teinte, voilà. À base d'aquarelle et de teinture pour vêtements, des teintures à base de pigments végétaux, toujours dans le souci de la réversibilité. Donc on doit réussir à retrouver la teinte la plus proche possible. Ici, on pose un soufflet sur le dos du cartonnage, c'est-à-dire qu'on va renforcer la jonction du cartonnage. Je vous ai dit que ça ne tenait que par le réencollage de la première garde. Avec ce soufflet donc, qu'on voit ici, on ajoute un élément d'adhésion. Donc là, c'est la technique pour l'encoller sans encoller en même temps le dos en entier. Et on fixe le cartonnage. Ça sèche contraint pendant une heure dans une bande de contention et sous poids. À partir du moment où on a commencé à s'occuper d'un volume, il est toujours contraint sous des poids quand on ne le travaille pas. Donc voilà le résultat qui est invisible, mais qui permet une plus grande solidité. On réencolle les gardes sur le bloc texte. Donc ça finit la jonction du cartonnage et on laisse sécher, maintenu par les pinces. Toujours sous poids. Il nous reste à nettoyer notre cartonnage, donc légèrement avec une éponge le moins humide possible. On sèche immédiatement pour éviter que l'humidité ne puisse s'imprégner. On va cirer avec une cire à base de cire d'abeille et d'huile essentielle fongicide. Et ensuite, on va lustrer, pousser, pour qu'il retrouve tout leur éclat. On ajoute aussi un fixatif acrylique qui est lui aussi parfaitement réversible. Donc celui de droite est un peu flou, mais celui de gauche, on voit bien la différence. Alors ça, c'est l'étape qu'on appelle la visiture. On va appliquer un petit peu de colle sur les endroits qui... on a toujours, comme la percaline, la lustrine, sont des toiles, il y a toujours des fils qui restent libres. Donc on est contraint avec toujours cette colle réversible, mais à séchage plus rapide, une heure. Et le travail est terminé. Donc en termes de plaçure, donc les étapes au moment où je restaure le papier, ça peut prendre de 2 heures quand le volume est très peu abîmé à 7-14 heures pour un seul volume. C'est vraiment un travail de fourmi. Ensuite, les étapes de restauration du cartonnage sont somme toute plus rapides. Hein. Je passerai, sans compter les temps de séchage ou les temps de mise sous poids, une demi-journée à faire ça. Ensuite, les principes de la restauration, donc je les ai évoqués un petit peu au fur et à mesure. Une restauration doit être aussi discrète que possible, mais lisible, ne doit pas complètement disparaître. Il y a certains collectionneurs qui souhaiteront que ça disparaisse complètement, mais en termes de conservation du patrimoine, il faut qu'on puisse déceler une intervention ultérieure, en fait. Les matériaux utilisés doivent être parfaitement stables chimiquement dans le temps. Donc là, je parle des consommables, hein, des colles, des papiers, de la toile, de la toile polyester dont je vous ai parlé. Et toute intervention doit être tout à fait réversible, donc on utilise des colles qui sont réversibles à l'eau. Je vous remercie.